Et bonsoir, bonsoir. Bienvenue, je réajuste en même temps mon micro afin de démarrer avec vous ce chapitre 2 de la saison 2 de Road to Scale et non plus Road to 10 Million. Et je vais commencer avec une petite citation parce que je me suis un peu emballé. Normalement, on commence toujours avec de sages paroles. Le bonheur est comme un papillon. Plus vous le poursuivez, plus il vous échappe. Mais si vous remarquez les autres choses autour de vous, il viendra doucement s'asseoir sur votre épaule. C'est Henri David Thoreau qui dit ça. Bon, les amis, c'est un plaisir de se retrouver. Je vous laisse méditer là-dessus pendant que je fais l'introduction du podcast. Nous avons énormément de choses à traiter dans cet épisode. Ma foi, il est bien rempli, puisqu'on va commencer par parler des actualités. Je vais vous parler du bilan final du coup d'Actour et une petite surprise qui va concerner les Parisiens. Je vais vous faire un petit update sur la prépa marathon 2025 qui a commencé aujourd'hui. C'est pas vraiment la prépa, mais c'est au moins le plan annuel marathon. On va parler des pendules, il y en a 8 cette semaine. On va voir pourquoi est-ce que la discipline est en fait un synonyme de l'amour de soi. Pourquoi apprendre à jongler est la solution. Alors comment le dire sans vous spoiler, je réfléchis à chaque fois pour vous annoncer le plan sans le dire. Bon, pourquoi apprendre à jongler est la solution quand on a énormément de choses à faire dans sa vie de différentes et qu'on veut apprendre à jongler avec. Donc on va reprendre la métaphore, voilà, de comment font les jongleurs et qu'est-ce qu'on peut en apprendre. Et entre autres, je vous en tease une dernière, on va voir pourquoi est-ce que les métaphores sont le summum de la compréhension de quelque chose. Donc quand vous êtes capable de faire une métaphore sur quelque chose, c'est que vous l'avez bien compris, et pourquoi est-ce que ça permet de bien se rappeler des choses et comment est-ce qu'on en fait des bonnes. Voilà, et puis après on va voir pourquoi est-ce que j'ai changé d'avis sur une chose en particulier, c'est quelque chose dont je vous avais parlé avant, c'est que pour rendre un client heureux, il suffit qu'il y ait un delta positif entre ce que vous avez promis et ce que vous avez délivré. Je pense qu'il y a une limite à ça. Et on va parler d'un sujet du moment, c'est un recurring subject dans Road to Scale, précédemment Road to 10 Million, ce sont les stratégies pour traiter les moments où vous n'arrivez pas à accéder à vos raisonnements, c'est-à-dire votre cerveau est un petit peu capoute. Je vais vous expliquer comment est-ce que je vois ce sujet. Voilà, bref, donc, bienvenue dans le podcast Road to Scale, anciennement Road to 10 Million. Je m'appelle Théo Lyon, j'ai 26 ans. Je suis diplômé de HEC, mais aussi et surtout le fondateur de Kodak, mon groupe d'agences qui aide les entreprises à grossir en ligne. Ça fait 4 ans que l'entreprise existe. On fait aujourd'hui 436 000 euros de chiffre d'affaires mensuel avec une soixantaine de salariés. Ça fait aussi 4 ans que je me lève tous les matins en me demandant comment la faire passer au niveau supérieur. Et s'il y a bien une chose que j'ai découvert après tout ce temps, c'est que mes plus belles phases de croissance entrepreneuriale sont toujours corrélées au moment où j'ai le plus essayé de me scaler moi-même. Et donc je vois une entreprise comme la somme des qualités et des défauts des membres qui la composent. Naturellement, elles sont donc très souvent le prolongement de celles qui en sont à la tête. Celles ou ceux. D'où la nécessité pour les fondateurs d'exiger autant de performances pour eux-mêmes qu'ils n'en veulent pour leur boîte. Et donc j'ai donné un nom à cette façon de voir la croissance, ça s'appelle l'entrepreneuriat avec un A, pour repartir de l'étymologie du mot entreprendre qui veut dire se saisir d'eux. Et ce dont un entrepreneur veut se saisir, c'est soi-même. Donc l'idée sous-jacente de ce podcast, c'est que l'entrepreneuriat n'est qu'un prétexte pour se scaler soi-même. Et inversement, vous scalez vous-même, a de grandes chances de faire de vous un meilleur entrepreneur. Via mes expériences personnelles, rencontres et lectures diverses, j'essaie de faire en sorte que vous terminiez chaque épisode en ayant appris au moins une chose qui vous aide à grandir plus vite ou plus loin. Merci d'être avec moi et bienvenue dans le second épisode de la saison 2 de Road to Scale. Je suis extrêmement content de vous retrouver et je passe un très bon dimanche. Donc je vous rappelle, on est le 5 mai, il est 22h17 au moment où j'allume mon micro. Donc c'est pour moi ce podcast toujours une activité très tardive de fin de semaine. C'est la dernière chose avant d'y mettre un terme final. Et donc je suis content de le passer avec vous à chaque fois. Donc j'ai passé la journée à réfléchir un peu à ce que j'allais vous raconter. J'ai fait une bonne journée de sport puisque voilà, c'est ma première semaine depuis le marathon que j'ai repris à 4 séances de running. Je vous explique un petit peu où j'en suis derrière. Donc précédemment d'abord, dans Road to 10 Million. Donc la semaine dernière, on avait parlé de la nouveauté de la saison 2. On avait fait un petit bilan de la saison 1, notamment les chiffres. Et j'avais introduit 3 nouvelles sections qui ont déjà évolué dans cet épisode numéro 2, parce qu'il y en a une qui va disparaître. Je vous avais parlé de « J'ai changé d'avis sur » les sujets du moment et le case cracking, qui sont les nouveautés de la saison 2. Il y en a une qui va disparaître, je ne vous dis pas laquelle, mais vous pourrez deviner, parce que normalement j'ai teasé l'épisode et celle que j'ai pas teasé, c'est celle qui a disparu. Et on avait parlé dans les pendules de pas mal de choses. On avait fait notamment une spéciale au début, Brian Chesky. On avait vu quelle était la différence entre l'adulation et l'amour et pourquoi c'est très important pour un fondateur de boîte de ne pas confondre les deux. Pourquoi est-ce que ramener des sujets business à l'échelle individuelle, c'est de la balle et ça aide à réfléchir. On avait vu aussi la différence entre la solitude et l'isolement. Et bon, bref, donc si vous ne l'avez pas écouté l'épisode de la saison 1, vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur le podcast Road to 10 Million, le mettre dans la file d'attente, c'est pas grave, normalement vous allez comprendre, enfin, voilà, c'est pas comme une série, même si les épisodes se suivent chronologiquement, vous pouvez les comprendre sans avoir consommé ceux d'avant. Mais donc mettez-le quand même dans la file d'attente, c'est très important. Et voilà, et profitez-en pour mettre une petite note aussi tant que vous y êtes, parce que c'est la suite du déroulé du podcast que j'ai dans ma trame, c'est un petit bilan sur les chiffres, et notamment le score des notes est de plus en plus impressionnant. On est à 811 notes sur Spotify, je suis pas allé faire le relevé sur Apple Podcast. Donc on se rapproche dangereusement des 1000, et ce qui est stylé sur Spotify, c'est quand il y a un 1000, ils mettent un K. Donc il y a un K, il peut marquer 1000, je trouve ça trop cool. Donc il nous en manque 189, je compte sur vous, on a encore un peu de temps pour le faire, mais si vous aimez ce podcast, c'est le meilleur truc que vous puissiez faire, à votre podcasteur préféré, c'est de mettre une petite note, et pas que moi d'ailleurs, tous les gens que vous écoutez. Donc on est à 3848 abonnés sur Spotify, ça c'est les gens qui ont cliqué sur le s'abonner, vous pouvez le faire aussi si vous voulez, si vous aimez bien... avoir pas une notification, mais au moins le podcast dans votre feed quand vous le cherchez, pour ne pas rater les épisodes qui sortent. Et on est à 197 900 écoutes depuis le début de du podcast. Voilà, donc terminé pour le précédemment, on commence par les actus. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière dans ma vie et celle de Koudak? Donc, on a clos, un peu en différé, le Koudak Tour. Le Koudak Tour, c'était ce petit tour de France pour faire des conférences et vous rencontrer. On avait fait les 5 villes la semaine précédente et il nous restait Bordeaux à faire le lundi puisque 6 villes en 5 jours c'est pas possible, donc on est rentré le week-end se reposer et on est reparti à Bordeaux, donc on a fini en beauté. C'était très cool de passer ce temps là avec vous, et franchement le Koudak Tour, on n'attire que du positif sauf le bilan financier. Comme je vous disais, j'ai fait le calcul, on perd 9000 euros sur le Koudak Tour, c'est beaucoup plus que ce que je pensais. Bah voilà, ça part vite avec les logements, le train, tout le bordel, ça, on n'avait pas anticipé. Bref, donc, on garde un très bon souvenir du Koudak Tour, notamment le fait d'avoir pu en fait avoir du feedback terrain. On va en reparler derrière, mais c'est très précieux pour moi et pour Koudak de discuter avec vous en direct, et pas juste derrière un ordi en visio. Ça nous permet d'avoir pas mal d'observations, enfin des constats de l'impact que ce qu'on produit a sur vous, à la fois en termes de contenu et pour les clients aussi, parce qu'il y avait quelques clients qui étaient là. Donc c'est sympa de voir ça, et donc on a envie de le refaire. Il y a notamment toute une partie de la France qu'on a oubliée, enfin qu'on a oublié volontairement, parce que c'était l'intérêt du Koudak Tour, c'est rencontrer les gens qui sont en dehors de France. C'est le Koudak Tour à Paris. Et donc en effet, on va faire un finish. On va faire un finish à Paris, ça aura lieu le 29 mai, dans les locaux de Flowmodia, voilà, que vous connaissez peut-être. Donc le 29 mai, ça sera à 19h. Le lien est dans la description, et donc la conférence sera sur le thème des ads. C'est celle qu'on a faite dans toute la France, et combien faut-il investir en ads. Voilà, une très belle conférence qui sera donnée pendant une heure par mon associé, ami, tout ce que vous voulez, Paul Maher. Et je ferai la petite introduction aussi de cette conférence, comme je l'ai fait pendant tout le tour. Et après, voilà, on aura ce sera 2 heures d'ailleurs, pour discuter tous ensemble. On prendra des pizzas, ça sera cool. Voilà. Donc ça, c'est pour le Koudak Tour. Le lien est dans la description, je le répète, si vous voulez. Il n'y a que 80 places, d'ailleurs. Donc si vous l'entendez là et qu'on est encore dimanche 5 mai, je ne l'ai pas encore communiqué sur LinkedIn ni dans la newsletter, donc il en reste peut-être, mais je sais que ça va partir vite parce que je fais une story, là, il y a 25 places qui sont parties. Donc voilà, et lundi, ça devrait s'exciter. Voilà, donc ça, c'est pour le Koudak Tour, une expérience très positive qui sera aussi offerte aux Parisiens. Ensuite, une petite prépa marathon 2025. Alors, j'ai noté comme ça, on n'est pas vraiment dans la prépa parce qu'une prépa, c'est souvent les 20 semaines avant une compétition. Donc, je commencerai la prépa pour le marathon de Paris en 13 avril, moins 5 mois. Enfin, moins 20 semaines, donc ça fait à peu près 5 mois. Ça devrait faire, fin novembre, quoi, à peu près. Plutôt novembre, début novembre. Là, ce qui est assez agréable, c'est que je peux faire un plan plus long terme. Donc là, je viens de commencer à me faire coacher par Tristan de Iron Human, et j'ai très hâte de voir comment est-ce qu'on organise une saison entière pour quand on a un objectif à la fin de la saison qui est le marathon. Qu'est-ce qu'on fait le reste de la saison? Qu'est-ce qu'on travaille comme qualité? Est-ce qu'on fait de la vitesse, de l'endurance? Quel type de séance? Donc je suis très content d'être accompagné là-dessus, et ça va faire plaisir de pouvoir prendre son temps et de pouvoir faire des courses un peu kiff, je pense, entre les deux, parce que j'ai un petit 10 km en famille qui arrive dans 5 semaines. J'ai quand même un petit objectif au fond de la tête, même si ça n'en est pas un pour la saison, de faire en dessous des 40 minutes. Mais je suis allé courir aujourd'hui, c'était atroce. Je suis allé tester justement cette allure-là, donc c'est facile, hein, c'est 4 minutes du kilomètre. J'ai trouvé une séance sur internet parce que le coaching avec Tristan n'a pas encore commencé, donc c'est à partir de demain. Donc j'avais une petite séance un peu freestyle où je pouvais faire ce que je voulais. Je suis allé chercher sur la chaîne de Runwise, qui disait une très bonne séance de préparation aux 10 km, c'est 6 km à allure 10 km. Enfin, un petit peu plus lent que l'allure 10 km, donc j'ai pris l'équivalent de ma VMA, je crois que c'est 17 ma VMA, et donc du coup ça faisait un peu moins de 4 du kilomètre, et tu dois le tenir sur 6 km, donc ça fait 24 minutes. Comment vous dire qu'après 12 minutes, j'ai vu les étoiles, donc j'ai fait une pause, et j'ai fait 2 fois 12. Et donc j'ai souffert sur le deuxième, je n'ai pas du tout fait 4 minutes, même avec une pause. Donc c'est bien, ça m'a fait redescendre un peu sur terre, et surtout redécouvrir la souffrance, parce que je n'avais pas ressouffert depuis le marathon, même les séances que j'avais faites, c'était de la souffrance faible. Et c'était même pendant le marathon, c'est pas le même type de souffrance que celle d'aujourd'hui là. Quand tu cours vite, c'est pas la même chose. Je trouve que d'ailleurs ça. En fait, comment dire, quand t'es dedans, je pense, à minute égale, tu sais, à minute passée, la souffrance quand même où t'es en train de courir vite et où t'as plus de jus est quand même plus intense que la souffrance de quand t'es en endurance et que t'as plus rien à la fin. Je pense que mais ce qui est très chiant sur le marathon, c'est juste que tu dois la tenir plus longtemps. Donc en fait, in fine, la souffrance est bien supérieure pendant un marathon. Donc voilà, c'était cool et puis j'ai pu retrouver un peu des séances qui challenge mentalement et ça m'avait manqué. Et ce qui est alors une bonne et mauvaise nouvelle à la fois, c'est que c'est vraiment, ça confirme que c'est vraiment comme un muscle. Hein. Rien qu'en un mois là, sans faire vraiment d'intensité mentale, eh bien ça se perd un peu. J'étais pas très content de m'arrêter au bout de 12 minutes, vous l'imaginez, hein, quand j'avais prévu de faire 24. Et oui, je pense que voilà, falloir que je réapprenne à me repousser dans les limites et ça fait peur en fait à quel point ça part vite ce truc-là. Donc vraiment, ça s'entraîne, c'est normal, mais bon, en le réentraînant, ça devrait aller beaucoup mieux. Et je pense que d'ailleurs, ça sera une nouveauté que j'aimerais bien introduire pour le prochain marathon, c'est de travailler autant mon mental que mon physique. Alors le mental est toujours un peu travaillé dans les séances de fractionnés, dans les séances qui sont compliquées de manière générale, mais je suis sûr et certain qu'il doit y avoir des façons de travailler le mindset au sens plus large. C'est une distinction qui a été faite par Nico de Running Addict dans son dernier podcast que j'ai écouté avant de m'endormir hier. Et dans les bribes que j'ai entendues avant de tomber dans le sommeil, ils faisaient cette distinction-là que je trouvais intéressante et que j'aimerais bien un peu pousser moi-même à me foutre devant un papier et essayer de réfléchir dessus. Mais le mindset et le mental, c'est pas la même chose. J'ai pas fait encore bien les distinctions conceptuelles, donc là, je peux que vous faire un truc un peu sommaire en vous donnant mon intuition là-dessus. J'ai l'impression que le mindset, c'est la façon d'aborder quelque chose et le mental, c'est ta faculté à te faire mal pendant un effort. Et donc, je pense que je peux travailler un peu plutôt la partie mindset et le mental. Après, bon, bah, faire des trucs durs. De toute façon, je pense que la prépa est déjà très dure en running. Tu peux faire d'autres trucs durs à côté, mais souvent, t'as un peu une borne sup qui fait que t'as un certain niveau de difficulté que tu peux t'infliger à toi-même. Mais sur le mindset, il doit y avoir des trucs. Et c'est un petit peu ce que j'essayais de faire pendant le marathon avec ma petite phrase que je voulais me répéter. Qui a marché, mais qui a. Enfin bon, après, je sais pas ce que j'en attendais parce que pendant le marathon, je me suis dit, ouais, quoi, tu vas dire cette phrase dans ta tête, c'est bon, tu vas repartir, t'auras plus mal aux jambes. Bon, bah, spoiler, ça marche pas. Mais je pense qu'il doit y avoir une façon d'aborder le marathon que je pourrais rendre un peu meilleur et qui doit avoir un impact sur la course. Voilà. Bref, donc la prépa marathon 2025 n'a pas encore commencé, mais je me prépare pour la prépa. Et c'est cool. Maintenant, quelques news à la volée avant de passer au pendule à l'heure. J'en ai noté trois que je voulais vous partager, mais j'ai pas la matière pour détailler des tonnes. Notamment, la semaine dernière a eu lieu le premier Afterwork Road to Scale. Donc maintenant, un trimestre pour... Donc, Road to Scale, c'est le serveur Discord, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et donc, on se voit une fois en physique par trimestre pour les 8 premiers. Donc, ceux qui ont accumulé le plus de points via le système de récompense dont je vous avais parlé. Vous pouvez essayer de checker, si jamais ça vous intéresse, ce truc-là. Checker les épisodes de fin de trimestre de Road to 10 Million, du coup. Il y en a deux où je parle du Discord. C'est ceux, du coup, soit... Donc là, c'était fin mars ou début avril. Et je présente le truc. Mais bon, bref. Donc, les gagnants, ceux qui ont le plus de points, sont invités, les 8 premiers. Scaler de l'extrême. Et en plus, là, on a fait un petit afterwork, on a pu se rencontrer, donc c'était à Paris, jeudi soir, me semble-t-il. C'était très sympathique. Voilà, donc c'est l'occasion de rencontrer un peu les gens des terres de la communauté. Et il y a des gens avec des business assez avancés. Ça fait plaisir, parce que de trimestre en trimestre, ça progresse. Je veux dire, en termes de taille de business, il y a des gens qui font plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires avec leur boîte. Et c'est très cool de pouvoir échanger avec ces gens-là, qui partagent un peu un mindset plus holistique que l'entrepreneuriat tout court. Voilà, donc ça c'est la première chose. Seconde chose, on a tourné en Enlève tes chaussures, c'est le retour d'Enlève tes chaussures, je suis trop content. On l'a tourné, alors je vous donne l'invité, je l'ai dit nulle part ailleurs, donc il n'y a que vous qui le saurez. C'est Mounir Lagoun de Finari, que vous connaissez peut-être, parce qu'il a une bonne chaîne YouTube avec plus de 100 000 abonnés. Et donc lui, sa thématique c'est l'investissement et les finances perso, plus exactement, c'est pas l'investissement. Donc il a une app Finari qui permet de gérer ses finances personnelles, que bah, du coup j'ai commencé à utiliser après l'échange avec lui, parce qu'il l'a très bien vendu. Et donc l'épisode est sympa parce que lui il a quelques points qui sont intéressants, notamment le fait qu'il soit allé à Y Combinator. Donc Y Combinator c'est le plus gros incubateur de start-up du monde par lequel il est passé. Il produit beaucoup de contenu, il a une boîte qui grossit bien et il est relativement jeune, il a un peu plus de la trentaine. Donc on partage pas mal de trucs et souvent ça donne des discussions que moi j'apprécie et j'espère qu'à l'écran seront sympathiques. Donc c'est le retour de ETC, je suis content de pouvoir vous offrir des épisodes comme ça très bientôt. Et mon troisième truc, j'ai noté quoi ? J'ai noté PSG Dortmund. Oui, bon, ça, c'était compliqué. Mais c'était quand même un événement notable de ma semaine dernière. Ça a toujours un impact sur la journée du lendemain, c'est terrible. Donc là, j'espère aussi que ma semaine ne sera pas ruinée par quelque chose de terrible qui pourrait se dérouler. C'est mardi soir. Non, c'est mardi soir. Mardi soir, voilà. Il faut qu'on les tape chez eux. C'est officiel. Qu'est-ce que... Merde, je me suis perdu. J'étais en train de réfléchir. Attends, est-ce que c'est... Putain, je me souviens même plus si c'est chez eux ou chez nous. C'est chez nous. C'est chez nous. Donc, on était... c'est chez nous, pardon. Donc là, ouais, bref. On a perdu 1-0. C'était chez eux. Et donc, non, bref, c'est au parc. J'ai même regardé les places. Les prix sont indécents. Donc, je n'entendrai que le son depuis ma terrasse. Parce que j'habite près du Parc des Princes. Pour ceux qui ne suivraient pas le podcast depuis assez longtemps. Voilà. On termine avec les actus. On parle quand même au cœur. Enfin, on arrive quand même, voilà, au cœur de ce podcast qui sont les pendules. Donc, les pendules à l'heure. Pour ceux qui seraient nouveaux, je vous explique ce que ça veut dire. Ce sont des petites observations issues du terrain. Qui sont en gros les premières parties des dissertations. Vous savez, quand on fait une disserte au lycée, il y a trois parties, il y a souvent les premières réflexions qui sont ce qui donne lieu à la dissertation, que ce soit à la fois un peu dans l'introduction, mais aussi dans ce premier pilier d'un déroulé philosophique. Et après, derrière, il y a les parties qui sont les objections à la première partie, et puis après, la résolution. Là, Road to Scale, c'est un podcast qui est mon brouillon, de manière générale, donc je teste ici les idées pour savoir... déjà, c'est un premier entraînement d'essayer de les écrire et de vous les partager. Et ensuite, c'est super cool d'avoir vos retours dessus. Et les meilleurs, je les prends. J'en fais des contenus YouTube qui sont beaucoup plus poussés, ou alors des posts LinkedIn. Je vais vraiment chercher donc voilà, les deux parties qui viennent derrière. Donc ça veut dire quoi ? J'ai fait une petite nouveauté. C'est que maintenant, sur Spotify, dans le sondage, je vais vous mettre chacune des pendules. Donc, il va y en avoir 8. J'ai checké avant, je crois. Alors, j'ai déroulé jusqu'à 6. J'espère que je peux mettre 8 options. Je vais vous mettre chacune des pendules et je vais vous demander, si vous avez le temps, là, en même temps que vous écoutez, de voter pour la pendule que vous avez trouvée la plus intéressante ou alors que vous aimeriez que je creuse le plus possible, celle dont vous aimeriez bien qu'elle fasse l'objet d'un contenu. Voilà. Et si jamais vous voulez les pendules, pardon, récapituler, elles sont évidemment dans la newsletter que j'envoie de façon sporadique sur Substack et dont le lien est aussi dans la description. Voilà. Il y en a 8 des pendules. On va pouvoir démarrer. Et je prends une petite gorgée. Alors, let's go. 8 pendules. La première s'appelle « Épouser la saisonnalité ». Bon, je suis en train de revenir un petit peu plus dans le... Pas dans le sujet ads, pas dans la gestion day-to-day de campagne, mais au moins dans... comment vous décrire ça ? Plutôt dans la stratégie digitale, en ce moment dans mon travail. Parce que je suis en train de reprendre un peu le sujet marketing coup d'ac pur, et pas juste le sujet brand tel que je le traite d'habitude, donc avec mes vidéos YouTube, les posts un peu plus larges. J'essaie de faire en sorte qu'on ait un peu un réacteur donc de production marketing, mais qui soit très axé sur l'ads, parce que c'est un sujet que j'ai un petit peu délaissé en prenant des sujets plus larges. C'est pas une erreur, c'est juste que il faut bien faire la transition avec le reste, pour qu'il y ait des gens qui continuent à nous découvrir, pas juste parce qu'ils voient ma gueule passer, sont en train de courir un marathon, sont en train de raconter des trucs sur le Blitzkrieg, mais aussi parce qu'ils voient qu'on gère bien des campagnes. Et comme c'est pas moi qui le fais, il faut que voilà, je suis un peu le chef d'orchestre de tout ce truc-là, et donc tout ça pour dire que ça m'aide de comprendre un petit peu, enfin de comprendre même très profondément ce que font chaque membre de l'équipe, ce que disent les clients de nous et le fait de pouvoir être pertinent quand je vais proposer ou écrire des choses, des contenus qu'on va pouvoir poster sur la chaîne Kodak ou tous les réseaux Kodak. Donc il y a la newsletter, le podcast qui s'appelle Les Brutes Acquises, maintenant il s'appelait Les Brutes e-commerce, il a changé de nom aussi, donc c'est l'air là, je change tous les noms parce que je suis en train de reprendre les trucs, donc si d'ailleurs vous le cherchez, il est sur Spotify aussi, donc ça c'est pour les gens d'entre vous qui veulent un peu en savoir plus sur tout ce qui est stratégie digitale. Donc bref, tout ça pour vous dire que quoi, j'ai retrouvé des sujets que j'avais déjà traités il y a 4 ans, en fait, que c'était les mêmes questions que posaient les prospects quand moi je faisais les R1 sales, donc il y a vraiment longtemps. Et aujourd'hui, parce que j'ai aussi écouté des R1. Donc R1, c'est rendez-vous numéro 1. C'est en vente quand t'as un prospect qui réserve un appel de découverte chez nous, dans le Calendly. On discute avec lui et bon voilà, le but c'est de capter un petit peu où est la merde chez lui et de commencer à lui expliquer comment est-ce qu'on va la résoudre. Et après, donc derrière, ça donne lieu à une restitution d'audit. Je reviendrai plus tard là-dessus. J'ai une petite pendule dans laquelle ce sujet reviendra. Donc, les gens, ils posent toujours une même question. Enfin, il y en a souvent. J'en ai rien entendu un. T'as des mecs qui viennent te voir avec un business saisonnier. Et te disent, ah, mon business, il marche que dans les temps forts. Trouve-moi une solution pour les temps faibles. Donc, il y a 4 ans, je disais, pas de souci. Vas-y. On va trouver une solution. Ce qui, en effet, est possible. Tu peux faire des choses. Mais tu peux pas trouver une solution à un problème qui n'a pas de solution. C'est-à-dire que tu peux jamais avoir une contre-saisonnalité qui fonctionne aussi bien qu'une période de forte saisonnalité. Donc, le premier travail quand t'entends quelqu'un dire ça, c'est de calmer les attentes, mais c'est pas ça que je vais vous dire dans cette pendule. Je trouve que le concept de saisonnalité est très intéressant et beaucoup plus large que juste le sujet ads. En fait, essayer d'aller contre une saisonnalité, c'est comme essayer de nager à contre-courant. En fait, tu peux être le meilleur nageur de la Terre, à un moment, tu vas te fatiguer, tu vas te faire emporter par le courant. Tu peux être le meilleur marketeur de la Terre, tu ne pourras pas vendre des moufles en été. Ce n'est pas possible. Et donc, en fait, la saison, c'est l'une des forces marketing qui est les plus puissantes, parce que ça peut faire scaler les business. Et c'est un concept en fait qui est très intéressant parce qu'il est très généralisable. À ce jour, j'ai rencontré aucun business qui avait aucune saisonnalité. Et donc, je vais vous expliquer après, ne vous inquiétez pas, ce qu'est la saisonnalité. Je pense que vous pouvez vous en douter, hein, saison, vous captez. Et je trouve qu'elle est très, alors sous-cotée, c'est un peu cliché de dire ça, mais du moins, elle est pas beaucoup considérée dans les plans marketing. Alors que c'est un facteur qui peut vraiment faire une différence monumentale à la fin de l'année, si tu as su construire une stratégie marketing qui épousait la saisonnalité. Donc en gros, la saisonnalité, c'est quoi? C'est une variation de la demande dans une période donnée. Donc tu as deux types de saisonnalité. Tu as les saisonnalités extrinsèques, donc ça va être tout ce qui est, par exemple, quand il y a des soldes, la fête des mères, quand il y a Noël. Ça, c'est des moments où la demande pour certains types de produits va s'accentuer. Donc, quand tu essaies de vendre des sapins de Noël en août, ça n'a pas marché. Beaucoup plus pratique de le vendre ça en novembre quand les foyers en prennent pour chez eux. Ça, ce sont des saisons extrinsèques, c'est-à-dire celles que tu ne peux pas contrôler, que tu subis. C'est comme ça, la demande, elle évolue de telle façon très prédictible chaque année. Et ensuite, tu as des saisons intrinsèques. Ça, c'est celles que tu peux, enfin, qui sont intrinsèques à ta marque, donc que tu peux créer toi-même et qui vont faire que la demande va être plus intense. Et donc ça, c'est par exemple les stratégies de promotion. Quand toi, tu décides de faire une réduction sur certaines choses, bon bah tout à coup, là, il va y avoir plus de trafic sur ton site parce que les gens sont intéressés par avoir les choses moins chères. Quand tu sors une nouvelle collection, ça marche. Donc, quand Apple, ils sortent des nouveaux iPhones, il n'y a pas une saisonnalité particulière, c'est pas Black Friday ou whatever. Bon, bah, il y a des gens qui font la queue devant les Apple Store parce que la saisonnalité, ça attire les foules. Ça attise la curiosité chez le marché, donc chez la demande. Et donc, la saisonnalité, il faut voir ça comme le vent qui pousse un bateau. Si on continue la métaphore, la voile, c'est ton effort en vente. Donc, quand tu dépenses... plus tu dépenses cher, je ne sais pas si ça sert à quelque chose pour le coup de prendre une métaphore pour vous expliquer ça, mais les efforts, c'est quoi? C'est à la fois l'argent et l'intensité que tu vas mettre dans ton marketing, dans ton équipe de vente, etc. Et donc, tu vas essayer en fait, de faire en sorte que, normalement, il y ait le plus de personnes qui travaillent au moment où la demande est la plus réceptive. C'est aussi simple que ça. Donc, tu vas dépenser plus d'argent à Noël que pour vendre tes sapins qu'en août. On est d'accord. Et donc, en gros, si je dois vous l'expliquer plus simplement, il y a des moments où tu fais la même chose que d'habitude, mais tu as 10 fois les résultats habituels. En fait, la saisonnalité, selon cette définition-là, pardon, c'est un leverage. Ça veut dire que ça prend des moyens classiques et ça met un multiplicateur derrière. Tu n'as rien à faire de différent. Juste, ça se passe mieux. Donc, ça veut dire que c'est très important de savoir quand vont avoir lieu ces périodes-là parce que tu peux t'épuiser à essayer de nager à contre-courant, donc vendre tes sapins en août. Et c'est surtout aussi l'inverse qui est intéressant. Quand le marché ne veut pas de toi, ça ne sert à rien de ramer plus fort. Et donc, il vaut mieux s'arrêter et faire une de ces deux choses. Soit tu t'arrêtes et tu regardes dans quel sens souffle le vent, pour savoir s'il y a une saisonnalité, mais tu es juste pas dans le bon sens. Donc, tu essaies de mettre ta voile dans le sens du vent. Soit tu regardes la météo et tu regardes quand est-ce que le vent y revient. Très simplement. Et donc, c'est une idée, en fait, le concept de saisonnalité qui est hyper généralisable. Parce que une grosse partie de réussir une quête, c'est comprendre que l'effort que tu dois fournir dans cette quête, qui est long terme, il n'est pas linéaire. Et donc si... J'ai essayé de prendre une métaphore, de faire une analogie avec la prépa marathon, mais c'est un peu plus compliqué parce que je pensais directement en fait, au milieu de la préparation marathon, qui est plus dur que le début et que la fin. Et dans lequel il ne faut juste pas abandonner, mais c'est un petit peu, je pense que c'est une autre notion, parce qu'il n'y a pas vraiment de force de fond qui font que ça décuple ou pas un effort. Et donc, ce qu'il faut juste bien comprendre, c'est que cette notion de saisonnalité, elle est très intéressante. Demandez-vous où est-ce que vous, à l'échelle d'une année, et pas juste à l'échelle des sujets que tu dois traiter, donc tous les matins, en fait, je sais pas, toutes les semaines, tu as une dizaine de sujets, tu choisis ceux que tu vas prioriser. Réfléchissez aussi sur le long terme à quels vont être vos temps forts. À quel moment est-ce que va vraiment falloir que je produise mon meilleur travail parce que je sais que ça va m'éviter de devoir ramer très fort quand il n'y a pas de vent. Il faut avoir ces moments-là en tête. Il faut savoir là où il faut mettre la patate et savoir ce où il faudra se reposer. Donc nous, on a une saisonnalité très simple, c'est le Black Friday, donc le Q4. Noël, etc. On sait que c'est là où les clients, enfin juste avant cette période-là, les clients ont envie d'être bien accompagnés en marketing digital, donc c'est là où il faut qu'on fasse des bons efforts marketing. Et on sait qu'en août, c'est très compliqué, ça sert à rien de faire du marketing. Donc, posez-vous cette question-là et demandez-vous comment est-ce que le contexte joue en ma faveur ou bien contre moi. Donc, épousez cette saisonnalité parce que vous ne pourrez pas nager très longtemps à contre-courant. Voilà, donc épousez cette saisonnalité, c'est la pendule numéro 1. Pendule numéro 2, elle est en anglais. C'est « A captain makes sure we do the right things. A lieutenant makes sure we do things right. » Donc un capitaine fait en sorte qu'on travaille sur les bonnes choses. Un lieutenant fait en sorte que les choses soient bien faites. C'est moins stylé parce qu'il n'y a pas la reprise de la formule en français. Et donc c'est issu d'un petit bouquin qui m'a été recommandé par Guillaume. Donc CRO, Chief Revenue Officer chez Legal Start, que j'ai eu en call du coup cette semaine, et qui me parlait d'un bouquin qui s'appelle Turn the Ship Around, et qui raconte une histoire qui est, enfin le synopsis c'est pas mal, je l'ai pas terminé, mais en tout cas ça m'a donné envie de l'acheter comme il expliquait. C'est donc un capitaine de sous-marin qui est affecté au pire sous-marin de la marine américaine, et je sais pas c'est en combien de temps, je crois que c'est en quelques années, il l'a turn around, turn the ship around. Avec pas mal de méthodes de management et en fait des trucs qui sont très applicables au milieu de l'entreprise. Donc c'est un bouquin qui en fait tease et reprend quelques éléments de la mouvance Lean. Et donc c'est pas mal parce que c'est appliqué de façon concrète sur un domaine qui est pas du tout j'allais dire professionnel, mais si, qui est pas du tout corporate. Voilà, et donc j'ai bien aimé le synopsis, et donc dedans il y a cette petite formule qui est d'ailleurs pas utilisée pour à titre de recommandation, mais parce que en gros il dit pas il faut faire ça, un capitaine doit faire ça et un lieutenant doit faire ça, mais en tout cas il dit cette formule là et moi je suppose que dans la suite du bouquin il va démonter justement cette formule là, mais que j'aime bien malgré tout, parce que je trouve que ce qui est intéressant c'est pas forcément que ces deux fonctions là, donc choisir les bonnes choses et faire les choses bien, soient affectées au capitaine ou au lieutenant. C'est surtout que c'est une façon très simple de décrire comment est-ce qu'un projet se passe bien. Il faut bosser sur les bonnes choses et les délivrer. C'est tout con, hein. mais tu peux expliquer souvent un projet qui fail ou un projet qui a réussi selon comment est-ce que ça s'est passé sur ces deux facteurs-là. Mais en gros, ce que je voulais vous dire, et la raison pour laquelle j'en fais une pendule, c'est que je suis de plus en plus convaincu que tu ne peux pas vraiment faire l'un sans l'autre. Je parle à titre d'individu. J'ai pas l'impression que ce soit un sujet qui soit séparable. Il y en a un qui fait ça et l'autre qui fait l'autre. Il y en a un qui choisit ce qu'on fait et l'autre qui fait en sorte que ce soit bien fait. Et donc je suis convaincu que dans la suite du bouquin il va montrer l'inverse, mais bon, je ne vais pas terminer. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que je vous dis ça ? C'est parce que c'est très dur de savoir ce qu'il faut faire si tu ne vois pas toi-même comment les choses sont faites. C'est toute l'histoire dont je vous ai parlé. Je n'en ai pas parlé la semaine dernière. J'en ai parlé dans le live Discord. Donc je ne vous ai pas parlé du rôle du CEO, je crois. Je vais vérifier si peut-être que j'en ai parlé. Je crois pas. Peut-être. Donc c'est tout le dilemme entre la first party data et la third party data. Ça me dit quelque chose, parce que je pense que j'en ai parlé. Si, mais j'en ai parlé pas dans les pendules, je crois que c'était à la fin. Dans les sujets du moment. Si, ouais. Hop, sujet du moment, j'en avais parlé. Donc, je vous le refais pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode précédent. Tu ne récoltes l'information que de deux façons. Soit toi directement, tu vois ce qui se passe et tu constates, ou alors tu fais toi-même l'action et tu prends le feedback, ou alors tu écoutes quelqu'un qui te raconte comment s'est passée une situation. La seconde fait gagner du temps, et la première te permet d'avoir une information qui est la plus pure possible. Eh bien, pour prendre une bonne décision, il faut des deux. Le problème, c'est que quand tu dois toi-même décider quelles sont les bonnes choses, et que tu dis « Ok, c'est le lieutenant qui va s'assurer que les choses soient bien faites », eh bien, tu te retires toute cette partie first party data. Tu ne vois pas, en fait, si les choses sont bien faites. On te raconte juste, via un intermédiaire, comment est-ce qu'elles sont faites. Et donc, par exemple, en entreprise, tu as toujours un sujet qui est récurrent et que vous avez certainement déjà eu, c'est un sales qui ne vend pas et qui va te dire que c'est à cause du prix. Alors Dieu merci, on l'a plus depuis très longtemps chez Kodak, mais c'est arrivé dans le passé. Donc heureusement qu'on se fie pas à cette third party data, parce que tu n'as pas toi vu comment s'était déroulé le cold sales et constaté que en effet la raison pour laquelle il n'est pas rentré chez nous c'est parce que c'était trop cher. Mais voilà, c'est ton sales qui te dit ça, et donc un mauvais manager il se dirait ok d'accord, je te fais confiance, je te donne la responsabilité de ce truc là, je t'écoute, vas-y on baisse le prix. Ah, j'ai plus d'eau. Ouais, j'ai plus d'eau dans ma bouche. Je reprends. Donc là, ce qu'il faut faire dans cette situation pour pas se faire niquer, c'est dire, ok, je t'écoute. C'est important, j'ai envie de découvrir pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à vendre ou tu n'as pas réussi à vendre ce deal, je vais aller écouter moi-même le call et donner mon avis dessus. Ah, en effet, oui, c'était cher. C'est vrai que ça n'a pas aidé, mais je pense que peut-être que ce prix-là aurait pu être accepté si jamais il avait été mieux justifié à tel endroit, des problématiques qu'il t'avait données, auxquelles nous n'avons pas donné de solution, ni apporté de preuves. Voilà, bref, c'est un peu caricaturé, mais vous comprenez le truc. Donc, ce que je veux dire, c'est que si je l'ai sélectionné pour en faire une pendule, c'est parce que ça fait écho au sujet dont je vous parlais la semaine dernière. Je pense qu'en fait, il faut être le capitaine et le lieutenant. Il faut aller s'assurer que les choses soient bien faites. Et ça me fait penser à Bernard Arnault qui va, dans sa boutique parisienne, souvent regarder que les sacs sont bien placés et tout. Et ça lui permet en fait de garder contact avec le terrain. Alors forcément, plus tu montes, plus tu dois avoir une overview de la structure, mais il faut garder les pieds sur terre. La tête peut être dans le ciel, mais les pieds doivent être sur terre. Et ça, c'est un truc que j'ai pas toujours bien fait dans l'histoire de Kodak en tant que CEO. Donc c'est la première chose. Tu peux pas faire l'un sans l'autre. Seconde chose, ça m'a aussi beaucoup fait penser en fait aux fondateurs d'agences que j'accompagne. Notamment, faire une distinction entre les early stage et les mid stage, en gros, pour ne pas dire les late stage, parce que c'est pas vraiment ça. Donc en early stage, donc les fondateurs qui se lancent, souvent c'est moins grave de ne pas faire les right things, enfin c'est moins grave de ne pas faire les choses parfaitement que de ne pas taffer sur les bons trucs. Donc en gros, voilà, la citation c'est « A captain makes sure we do the right things, a lieutenant makes sure we do things right ». C'est plus important quand tu es au début de faire les bonnes choses que de les faire parfaitement au début. Mais ça devient totalement faux quand tu passes un certain stade de croissance. Alors j'ai noté dans mes petites notes, j'ai mis 100 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Ne prenez pas cette borne-là comme vérité générale. Mais en tout cas, il va se passer un moment dans une aventure de croissance qu'on a déjà rencontrée et dont on... Alors, je ne vais pas dire qu'on en sort, mais ça fait au moins longtemps qu'on a identifié le sujet et qu'on travaille dessus, qui est le moment en fait où tu commences à souffrir parce que tu n'arrives plus à voir directement si les choses sont bien faites et donc les choses ne sont plus bien faites. Et donc, tu travailles sur les bonnes choses, mais en fait, les choses n'avancent plus. Et donc, finalement, faire des allers-retours un peu entre les deux. Donc, en fait, je pense que la leçon de cette pendule-là, c'est que un CEO doit être le capitaine et le lieutenant. Voilà. Et j'ai dit lieutenant, mais je crois que c'est pas exactement ça le mot dans la marine. Et je me rappelais plus, comme je l'écoutais en audio, ce bouquin, j'ai eu du mal à retrouver la citation. D'ailleurs, vrai problème avec les audiobooks. Numéro 2, on passe à la numéro 3. On va parler des métaphores. Alors moi, vous le savez, j'ai un associé qui s'appelle Paul et qui est excellent en métaphore. C'est quelqu'un qui est capable à chaque fois de trouver la bonne figure de style. Enfin, c'est pas juste la bonne figure de style, et ces figures de style sont un peu souvent les mêmes, ce sont des analogies ou des métaphores ou des comparaisons. Et il va juste faire en sorte que la métaphore, la figure de style soit très simple à comprendre, et ça te permet parfois de mettre de la clarté sur un sujet qui est un petit peu complexe, il est très fort là-dessus. Et il m'en a pris une notamment pour expliquer pourquoi c'est très dur pour un sales non technique, qui connaît pas, qui n'a pas jamais exercé le métier qu'il va vendre, donc pour nous, la gestion de campagne. Pourquoi est-ce que c'est si dur pour cette personne-là de rassembler les bonnes informations pour que derrière un consultant fasse une roadmap? C'est par rapport à notre process sales que je vous racontais avant. Donc nous, le premier rendez-vous, c'est rassembler les bonnes informations pour ensuite faire un bon compte-rendu d'audit. Et on peut croire que c'est une tâche très simple en fait. Il suffit de faire une recette, tu fais une liste de courses et tu dis, bon bah, toi en tant que sales, il faut que tu me trouves ces informations en R1. Et en fait, on s'est rendu compte à pas mal de moments du process que, sur pas mal de deals qu'on n'a pas gagnés, que à ce moment-là, il y avait quelques petites merdes qui étaient faites et qui en fait nous laissaient croire que le problème venait derrière de la roadmap. La roadmap. Alors je sais pas si c'est clair pour tout le monde. Je n'ai vraiment pas envie d'employer du jargon trop Kodak, mais la roadmap, c'est la réponse d'audit qu'on fait en second call. Et donc en gros, cette roadmap parfois elle tirait un petit peu à côté. Et en effet, parfois il y avait les bonnes informations et on a tiré à côté. Et parfois, en fait, on tire à côté parce qu'une information qui était passée à la trappe, tout était bon, mais il manquait un truc important qui était un peu l'éléphant dans la pièce qu'on n'a pas traité. Donc, il m'a pris cette métaphore qui est la suivante. Il m'a dit, c'est comme ta mère qui t'envoie faire ses courses pour cuisiner un gâteau, alors que toi, tu n'as jamais fait de gâteau. Et ça m'a fait tilt. J'ai capté, en fait. Et donc, je vais essayer de vous expliquer pourquoi est-ce que je trouve cette métaphore superbe. Donc vraiment rentrer dans le détail, ce que la métaphore est censée faire d'elle-même. Oui, sauf qu'on en avait assez discuté du sujet pour que cette petite métaphore soit une comparaison et qui m'a permis de comprendre directement. Mais ça m'a permis de capter le problème. Parce qu'en fait, je vous explique, pour vous qui n'aurez pas été dans la discussion que j'ai eue avec Paul avant. En fait, ta mère, comme elle sait que tu sais pas faire de gâteau, elle va directement, enfin, elle est obligée de te filer une liste avec les ingrédients. Et donc, tu as ta liste sur un papier, sur ton téléphone, je sais pas quoi, et tu vas à ton petit supermarché. Et ce process-là marche très bien, à une seule condition, c'est qu'il y ait tout en rayon. Donc, tout se passe comme prévu. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu dois faire ton gâteau? Enfin, elle doit faire son gâteau et toi, t'es à Intermarché et il n'y a pas de beurre. Mais pourtant, sur la recette, sur la liste de courses, il y a marqué beurre. Bah là, comme tu comprends rien et que tu captes pas comment il fait un gâteau, tu sais pas que tu peux remplacer ça par de la margarine, par exemple, parce que t'as pas fait assez de gâteau. Et donc, toi qui es parti faire les courses, tu prends rien. Et du coup, bah, on rentre à la maison, ta mère, elle fait un gâteau sans beurre, c'est dégueulasse. Eh bien, en fait, un appel sales, c'est un supermarché où il n'y a pas de beurre. Les deals qui font les bons sales, c'est pas ceux où le sales, il va réciter le script. Ça, en gros, oui, c'est facile. Bah oui, quand le mec, il te donne toutes les informations dont t'as besoin et tout se passe comme prévu, ça, c'est facile. En fait, tu mets n'importe qui à la place pour poser les questions, remplir un document, tout le monde est capable de le faire. Les bons sales, c'est ceux qui savent quand il y a un trou dans le script ou un truc qui est pas comme prévu. Donc, ah, putain, c'est un business model d'abonnement. Ça veut dire que c'est pas exactement les mêmes questions. Bam! Celui qui va être capable de quand même obtenir la réponse à la question qui est dans le script et qui va permettre derrière, enfin, qui n'est pas justement pas dans le script, pardon, et qui va permettre au consultant de faire un bon document derrière. Et donc, c'est ceux qui sont capables, en fait, d'attraper la margarine ou alors de prendre le lait végétal quand il n'y a plus de lait et qui sont capables de te faire un gâteau quand même. Et donc, la question maintenant, c'est comment est-ce que tu fais pour lui apprendre à se sales, à savoir s'affranchir de la liste de courses. Alors, soit tu fais des robots avec des scripts à rallonge qui anticipent tout. Vous savez, c'est comme les prospecteurs au téléphone, ils savent anticiper. Bon, si la personne répond ça, tu fais ça. Sinon, tu fais ça. Et ça fait des robots, tu productises en fait les personnes. Bah, soit tu lui fais faire un putain de gâteau. Tu lui fais faire un gâteau une fois. Si c'est pas assez, tu lui fais deux fois, trois fois, etc. C'est plus long. Mais en fait, il va capter à quoi ça sert le beurre dans la recette. Il va comprendre, ok, c'est la matière grasse. Putain. Et il va se poser des questions. Ah, peut-être que je peux faire avec de l'huile. Oh, non, ça va être dégueulasse. Il essaie de faire un gâteau avec de l'huile, ça marche pas. Boum. Et en fait, derrière, la personne-là est totalement autonome parce que tu l'as appris ce à quoi va servir ce qu'elle était en train de faire. Et c'est tout le problème d'ailleurs que j'avais pendant mon expérience en agence en Australie. C'est qu'on m'apprenait comment faire des tableaux Excel, mais je ne savais pas à quoi servaient les tableaux Excel. Et donc, j'avais un modèle de tableau Excel, je refaisais le même, mais j'étais un robot. Et donc, ça faisait que quand il y avait des conneries qui s'étaient glissées dans le tableau, eh bien, j'étais pas capable de les voir. Et vraiment, il y avait des trucs idiots à des moments où j'inversais des divisions, je faisais un rapport, mais dans le mauvais sens, et j'étais pas capable de le voir. Alors que normalement, ça va, les maths. Et bien ça, c'est juste parce que je savais pas à quoi servait mon truc, et donc j'avais désactivé mon bon sens. Ça rejoint des sujets dont je vous ai déjà parlé. Et donc en fait, t'as l'air d'un énorme idiot, tu vois, quand sur la recette, tu prends pas le bon ingrédient, soit t'as pas ramené de beurre, et donc tu peux pas faire le gâteau. Voilà. Et donc le problème en fait aussi pour aller un petit peu plus loin, c'est que quand t'as pas de culture de boîte, bah les mecs ils veulent pas faire le gâteau. Ils veulent juste que tu leur files la recette. Non mais si ça marche pas, c'est parce que ta recette elle est pas bonne. Non mais frérot, enfin donc voilà, très important d'avoir une bonne culture de boîte pour que des gens aient envie de d'aller faire le travail à la fin quoi. Pour que ça leur permette de faire du meilleur travail intermédiaire. Et donc pour moi en fait tout ça là, ce que je viens de vous expliquer, c'est l'explication de pourquoi est-ce qu'une boîte ne scale pas avec des process mais avec de l'ownership. Et donc je voulais vous expliquer surtout en fait c'était à la base la pendule s'appelle les métaphores. Il faudrait que je trouve un petit nom un peu plus stylé. Mais je voulais vous expliquer pourquoi est-ce que ça marche, une métaphore. Pourquoi est-ce que ça permet de comprendre. Alors que vous ayez compris ou pas celle-là, mais je pense que vous avez forcément eu un moment dans votre vie où quelqu'un a pris une comparaison, c'est comme... Et vous avez fait, ah putain, c'est vrai que ça décrit très bien cette situation-là. Et parce qu'en fait, c'est très simple, ça accroche une nouvelle connaissance sur une connaissance que tu as déjà. Parce que souvent, c'est une analogie que ça fait dans ta tête. Donc vous savez peut-être pas scaler une équipe sales, par contre vous êtes déjà allé à Carrefour, vous êtes déjà allé faire les courses pour votre daronne. Et donc l'intérêt en fait, l'interlocuteur du coup, va atteindre le summum un petit peu de son art et de la compréhension et de la pédagogie en fait, c'est ça exactement, quand il va être capable de trouver une métaphore qui fait appel à des trucs que tu connais déjà pour te faire comprendre, quelque chose que tu ne connais pas. Et ça c'est selon moi les meilleurs professeurs. C'est ceux qui sont capables de comprendre quel est ton système de connaissances, où est-ce que tu es kéblo, quelles sont les choses que tu maîtrises bien, et comment est-ce que je peux utiliser un truc que tu maîtrises bien pour t'apprendre un truc que tu maîtrises pas. Donc c'est pour ça que la métaphore, c'est aussi stylé. Parce qu'ensuite, il y a un truc aussi, c'est que tu ne peux pas faire de métaphore sur un truc si tu ne le comprends pas parfaitement. Sinon, ta métaphore, elle ne va pas être bien. Et d'ailleurs, quand des gens essaient de faire des métaphores sans avoir compris le truc, tu t'en rends compte directement. Parce que la métaphore, elle n'est pas bonne, ça prend pas. Donc je trouvais ça très stylé. Faites des figures de style, les potes. Je dis métaphore, mais n'importe quelle figure de comparaison. Je sais pas si, qu'est-ce qui rassemble une allégorie, une métaphore et une comparaison. Je me souviens plus de mes cours de français. Une petite gorgée. Et on parle de la pendule numéro 4, les potes, qui s'appelle « Apprendre à jongler ». Donc j'ai vu un petit truc sur Instagram récemment, que j'avais déjà un petit peu vu chez, je crois que c'était dans une conférence d'Oussama à l'ancienne, 4-5 ans, qui compartimentait la vie en 6 domaines. Qui disait la vie, c'est la santé, les amis, la famille, les enfants, les loisirs et le professionnel. Choisis-en deux. C'est ça que ça disait. Donc forcément, ça faisait un petit peu débat en disant « Non, mais moi je veux tout, etc. » Donc bon, l'objet de cette pendule, je vous la dis, je vous la donne pas pour dire si je suis d'accord ou pas, même si j'aime beaucoup l'idée que tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, vous le savez. Faut faire des choix. Mais je me suis posé la question, si quelqu'un voulait ne pas choisir entre ces 6 trucs-là, comment est-ce qu'il pourrait faire? Et donc pour ça, on va prendre une petite comparaison, une métaphore. On va imaginer que ces 6 domaines, ce sont des balles pour jongler. Donc, si on écoute ce petit post Instagram très ludique, on a du coup la règle que tu ne peux tenir que 2 balles à la fois, une dans chaque main. Et on va dire que dès que tu en laisses tomber une par terre, c'est ce domaine de sa vie, de ta vie qui s'écrase. Donc, tu ne peux te dire que 2 balles en même temps. Et c'est ce que je viens de vous dire, c'est simplement rapporter ça, je remplace les domaines de la vie par des balles. La question maintenant que je vais vous poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour n'avoir aucune des 6 balles qui touchent le sol, quand bien même vous n'auriez que 2 mains. Vous avez 4 heures, et je vous ai déjà donné la réponse dans le titre de la pendule. La réponse est « on jongle ». En fait, le jonglage, on dit jonglage ou la jonglerie? Non, le jonglage, je suis en ouf. Jonglage. C'est la seule méthode qui permet qu'aucune des 6 balles ne touche le sol. Parce que si vous voulez saisir plus que 2 des domaines, il faut accepter de ne pas toutes les avoir entre les mains en même temps et de d'apprendre à jongler. En fait, on change d'objectif. On n'essaie pas de saisir toutes les balles dans une main, donc de les faire rentrer. Parce que ça tient jamais très longtemps. Quand t'as des balles quand 2 balles sont plus grosses que la capacité que tu as dans ta main, tu peux les saisir peut-être pendant 1-2-3 secondes, mais ça finit par s'écraser. C'est terrible. Le seul moyen, en fait, c'est de les mettre en mouvement. C'est d'apprendre à jongler. C'est très simple. Jongler, c'est quoi? C'est attraper une balle sur la phase descendante, avant qu'elle s'écrase au sol, et dès que tu l'as dans la main, l'acheter le plus fort possible en l'air. C'est très simple, c'est jongler. Et en fait, plus tu es capable de le faire bien, et vite, plus tu peux jongler avec beaucoup de balles. Et donc, je vous prends un petit exemple. Pourquoi est-ce que je trouve que ça parle très bien, cette métaphore du jonglage? Disons que tu vois que ta santé se pète la gueule. Donc, tu grossis, tu dors pas bien, c'est pas ouf. L'erreur ici, ça serait de se dire, je vais faire un sprint salle de sport, je vais poser une autre balle que j'aurais été en train de jongler, donc peut-être que j'ai beaucoup travaillé et c'est ce qui m'a mis en mauvaise santé, et j'ai fait un sprint salle de sport. Ce que ça veut dire jongler, en fait, c'est que au lieu de faire ça, tu vas créer, alors tu vas en effet avoir dans ta main la balle santé, mais tu vas créer un système qui va le rendre sans effort. Donc tu vas par exemple choisir d'habiter près d'une salle de sport, ou tu vas créer un système de comptabilité avec tes potes, etc. Toutes les choses dont je vous parle dans le podcast. Ensuite, cette balle-là, elle est réglée. Donc ça veut dire qu'une fois que tu l'as eu dans ta main, elle est réglée, tu peux la jeter en l'air. Et donc tu peux en attraper une autre dans ta main. Parce que les systèmes, ce qui est génial, c'est que ça ne demande pas de bande passante mentale pour les faire. C'est des automatisations. Et donc tu peux la jeter en l'air, et après, le système que tu as mis en place, peut-être qu'il va tenir un mois, un an, 5 ans. Et quand ça va se redégrader, la balle, elle va te retomber dans les mains. Tu vas te rendre compte, ça marche plus pour tel truc a changé, tel truc a changé, je sais pas quoi. Donc tu vas revenir dessus. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, pour moi, la meilleure façon de mettre cette idée, ce concept du jonglage dans la vie pratique, c'est de mettre en place des systèmes. C'est-à-dire que tu ne peux pas jongler. En fait, si tu dois accorder ton attention à 6 choses, en effet, c'est impossible. Parce que tu ne peux pas les saisir dans ta main. Mais si tu mets énormément d'intensité dedans, tu construis tant que tu l'as dans la main, bam, 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 et ensuite tu la jettes. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de t'en occuper, parce que finalement, c'est une métaphore de l'attention. Saisir dans sa main, c'est donner de l'attention à ce sujet, donner de l'énergie. Eh bien, tu peux jongler avec plein de trucs. Et donc, en fait, au fur et à mesure que tu apprends à jongler, tu peux jongler avec de plus en plus de balles. Parce que tu as des bêtes de réflexe, tu es capable de lancer les balles très très haut, tu es très fort en système. Et donc aujourd'hui, en fait, moi, c'est ce que j'essaie d'apprendre, ce truc-là. Donc, et j'essaie de jongler entre pas mal de trucs. Et pour le coup, c'est un truc que j'arrivais pas à faire il y a 4 ans. Donc aujourd'hui, les trucs avec lesquels je jongle, c'est, donc j'ai des journées de très intenses de travail, donc 9-10 heures par jour. J'ai ma famille, la salle, le running, les relations amicales, intimes aussi. Et ça, c'est un truc avec lequel je n'arrivais pas à jongler il y a 4 ans. Je faisais que bosser et du sport, et juste la salle de sport. Et quand j'ai essayé de foutre HEC, hein, donc HEC entrepreneur, c'est là où j'ai explosé. Et pour moi, c'est là où... enfin, je ne sais pas si je vous avais raconté cet épisode-là, d'ailleurs. Le moment où j'ai failli drop out. Si je vous l'avais raconté, je pense, dans une vidéo. Bref, je vous avais raconté que j'avais essayé de trouver un arrangement et qu'on m'avait refusé. Mais en fait, cet arrangement, j'étais venu le trouver parce que j'avais craqué, en fait. Voilà. J'avais craqué mentalement et je pouvais pas tout gérer. Justement, j'arrivais pas à jongler parce que je voulais foutre mon... J'avais pas de système, en fait, qui était en place, pas d'automatisation. Donc, en effet, j'avais pas assez d'énergie pour les mettre dans tous ces trucs-là que je voulais gérer, notamment Kodak m'en prenait trop. C'était trop, même juste Kodak. Et donc, pour moi, c'est là où le burn-out, il arrive. C'est quand t'essaies de jongler avec trop de balles. Et il y a cette citation que je vous donne souvent, c'est « ce n'est pas le poids qui te tue, c'est la façon dont tu le portes ». Ben voilà, il faut apprendre à jongler. Et donc, si on caricature... jongler, c'est mettre en place des automatisations. Donc devenez des jongleurs. Devenez des jongleurs, c'est le seul moyen de ne pas avoir à choisir entre tous ces domaines de la vie, qu'il y en ait 6 ou plus ou moins. Vous avez compris l'idée. Je la trouve très intéressante, mais ça implique d'être capable, voilà, de mettre les trucs en mouvement. Vous savez, c'est comme un vélo, tu peux pas le mettre en équilibre s'il est à l'arrêt. T'es obligé de te mettre en mouvement et donc de risquer de tomber. Et c'est le seul moyen que le truc se pète pas la gueule. Donc en fait, t'es obligé de pédaler. Dès que tu t'arrêtes, tu tombes. c'est une très belle métaphore aussi de l'entropie. Hein. C'est quand t'arrêtes de t'occuper de quelque chose, ça devient chaotique. Malheureusement, c'est notre malédiction humaine, j'ai l'impression. Je ne trouve pas pour l'instant d'exemple qui contredise ça. Voilà, donc c'était la 4e, apprendre à jongler. Numéro 5, la discipline, c'est l'amour propre. Alors celle-là, je l'ai trouvée très très cool, elle sera pas très longue, mais je voulais vous en parler parce qu'elle est, bah, elle est simple et efficace, un truc auquel j'avais jamais pensé, donc parce que j'ai passé un peu plus de temps là sur Instagram Reels, alors, malgré moi, ces derniers temps, la reprise du trimestre a été un petit peu dur. Là, pour ceux qui savent, je l'avais dans mes objectifs, ceux qui suivent depuis longtemps, je l'avais dans mes objectifs de passer moins de 10 minutes par jour sur Instagram Reels. Ce que j'avais très bien réussi à faire pendant le dernier trimestre, enfin la majorité des jours, je n'avais pas ouvert l'application, j'avais plus l'application Instagram, et j'ai un petit peu repris. Bon, donc du coup voilà, ça a son lot de défauts, donc j'ai passé un petit peu plus de temps tout en étant en contrôle, mais du coup j'ai pu voir des vidéos. Il se trouve que entre tout les 90% de merde que j'ai vu, il y a un truc stylé que j'ai vu. C'était un mec qui tourne une vidéo, il doit se baigner dans un truc d'eau froide et puis il a son téléphone. Et il explique que tout le monde dit que la discipline personnelle, c'est important, mais personne n'explique pourquoi. Et j'ai trouvé son explication stylée. Il dit qu'en fait, la discipline, c'est une preuve d'amour de soi. Pourquoi ? Parce que la discipline, ça revient en fait très simplement à faire un cadeau au toi de demain. C'est-à-dire que tu vas choisir de faire quelque chose qui ne te plaît pas aujourd'hui dans le but d'offrir un résultat à toi du plus tard, demain ou pas. Et ça, en fait, ça, c'est une preuve d'amour, parce que, réfléchissez, les gens auxquels vous faites des cadeaux, c'est toujours des gens que vous aimez, surtout ceux auxquels vous faites des cadeaux souvent. C'est rarement des gens que tu détestes. Et donc, c'est pour ça que ça construit la confiance en soi, en fait. C'est parce que tous les matins, tu te réveilles et t'as un cadeau du toi d'hier. J'ai trouvé ça génial, en fait, pour expliquer la discipline. Alors, je sais pas si... Bon, c'est peut-être pas quelqu'un qui a quelque chose à foutre, que ce soit le mot exact discipline pour ce qu'il décrit. J'ai l'impression que c'est surtout le fait de privilégier le long terme, en fait, prendre des décisions pour le toi de demain et pas juste la discipline, parce qu'on peut aussi prendre les habitudes, même chose, les habitudes, c'est de l'amour personnel. Mais en tout cas, j'ai trouvé l'idée stylée. C'est l'amour de soi, c'est pour ça que ça construit la confiance en soi, en fait, d'être discipliné. C'est aussi là, je vous l'avais dit, putain, la réputation envers vous-même, ouais, ça c'est la même chose, la discipline, c'est est-ce que je tiens ma parole, et tenir sa parole, voilà, c'est une preuve d'amour. Je trouvais ça très cool, et donc je ne vais pas vous en parler plus que ça. C'était la pendule numéro 5. Pendule numéro 6. Number 6, c'est un tweet de Paul Graham que je vais vous traduire, qui m'a pas mal inspiré. Et donc la pendule numéro 6, c'est « J'aimerais tellement te lire pour la première fois ». Donc je vous traduis le tweet de Mr. Graham. Donc ceux qui ne savent pas, c'est le cofondateur de Y Combinator. Donc on y est. Donc il dit « Je suis toujours très envieux lorsque je rencontre des gens qui n'ont lu aucun roman de Woodhouse. Bon, je sais pas qui c'est, mais c'est pas important. Car cela signifie qu'ils peuvent tous les apprécier pour la première fois. Cela semble être la consécration ultime pour un auteur de fiction, lorsque les gens qui ont lu vos livres envient ceux qui ne les ont pas lus. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que c'est déjà bon, alors, une très bonne façon d'expliquer ce qu'est un bon bouquin ou un film. Et d'ailleurs, on pourra noter que ça ne marche pas avec les bouquins informationnels. Hein, souvent, les bouquins informationnels, c'est l'inverse. Tu n'espères pas que... tu n'as pas d'envie pour les gens qui ne les ont pas lus. Justement, tu plains ceux qui ne les ont pas lus. Moi, je plains et j'ai beaucoup de compassion pour tous les gens qui n'ont pas lu Atomic Habits. Hein. Vraiment, c'est le bouquin qui a changé ma vie. Peut-être pas la première lecture, mais en tout cas, bon, je ne sais même plus combien de fois je l'ai lu, ce bouquin. Voilà, donc ça ne marche pas pour les bouquins informationnels. Je vous signale ça au passage. Mais c'est très cool, en fait. Quand vraiment tu as lu un bouquin qui t'a marqué, tu t'es dit, mais putain, qu'est-ce que j'aimerais le découvrir, souvent. Enfin, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir le redécouvrir, mais c'est trop tard. Et alors, donc déjà, si vous vous demandez aussi au passage qu'est-ce qui me vient en tête là-dessus, bouquin ou film, sur des trucs que j'aimerais bien redécouvrir pour la première fois, il y a deux choses qui me sont venues en tête directement. Il y a le Bureau des légendes. Je ne sais pas si vous connaissez cette série. Elle est très bien écrite et beaucoup de suspense. Pour une série française, bon, bah, c'est incroyable. Je pense que c'est ma série préférée. Et dans le top 10, le reste, ça doit être des séries non francophones. Et ensuite, il y a How I Met Your Mother, que j'ai beaucoup aimé étant jeune. Et qui m'a procuré beaucoup d'émotions comme série. Voilà, je l'ai maté aussi pas mal de fois. Et donc, je voulais en fait quand même revenir sur la question de base sur pourquoi est-ce que Paul Graham dit ça. Pourquoi est-ce qu'on peut envier quelqu'un qui n'a pas lu un bouquin qui nous a impacté. Pour moi, l'explication elle est très simple. C'est parce que l'émotion des premières expériences, elle est irreproduisible. C'est comme vous savez, c'est la première gorgée d'eau quand vous avez super soif. La première gorgée est toujours mieux que la seconde, qui est toujours mieux que la troisième, etc. Et en fait, il y a une vraie... Il y a un genre d'expérience unique qui est commune en fait, entre plein de choses différentes et qui va se reproduire à chaque fois que c'est quelque chose que tu fais pour la première fois. Comment dire ? En fait, il y a une énorme différence entre le numéro 1, l'expérience numéro 1 et l'expérience numéro 2. Et après, tu sais, la première fois que tu joues au tennis et que tu arrives un peu à jouer, c'est super. Et à chaque fois, à chaque partie de tennis, après, elle se ressemble. Partie numéro 37 et partie numéro 38. Bon, voilà, peu importe, c'est la même chose. Il y a énormément de choses. Et en fait, je pense que ce qui le fait écrire ce tweet-là, c'est simplement que tu as un petit peu à la fois de nostalgie. Tu te dis, là, c'est comme un décès, ce truc-là. C'est en fait la première émotion, ça ne sera plus jamais la première expérience. Et je trouve ça très stylé, parce que c'est impossible de le reproduire. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a beaucoup surpris, moi, avec le marathon. Et ce qui fait que l'émotion a duré longtemps. C'est d'abord l'émotion du jour J qui te prend, et ensuite les semaines d'après où tu te dis que tu pourras recourir un marathon, mais ça ne sera plus jamais ton premier marathon. Alors il y a une première invitation qui est cachée dedans, et je pense qu'il n'est pas le dessin principal de Paul Graham. C'est d'indiquer qu'il y a une vraie valeur dans le fait de faire des choses pour la première fois. Il faut continuer à le faire le plus possible. Je m'attelle à suivre cette maxime. C'est la première chose. Ensuite, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour écrire des trucs comme il dit là ? Donc, c'est compliqué à résumer en peu de mots. Comment on fait pour écrire, en tant qu'écrivain, écrire des trucs où les gens qui ont lu se disent « Putain, j'aimerais tellement ne pas l'avoir lu ». Eh bien, si tu y réfléchis bien, c'est une façon très spécifique de répondre à cette question-là. C'est pas pareil pour... c'est pas la même façon d'écrire un bon bouquin et d'écrire un bouquin dont on va parler comme ça. Je pense que ce qui détermine ça, c'est qu'il faut faire vivre quelque chose à quelqu'un. Vivre comme une vie, ça veut dire avec des hauts, des bas, des émotions, des trucs. Et donc là, j'ai réfléchi aux exemples en fait, qui me venaient en tête. Quelles sont les choses que j'ai consommées et que j'aimerais pas... Oh là, putain, j'ai pas de voix aujourd'hui, hein. C'est terrible. C'est la course sous la pluie. Donc j'avais trois exemples de trucs que j'aimerais bien pouvoir, je tuerais pour redécouvrir. Enfin, tuerais, je sais pas, mais en tout cas, des choses qui me sont venues en tête comme ça. La première chose, c'est la fin de Fight Club. Parce qu'on me l'avait déjà spoilé, ce film, et on m'avait spoilé la fin. Je l'ai quand même regardé et j'ai quand même adoré la fin. Je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que j'aurais kiffé ne pas connaître la fin et le découvrir. Et c'est pour ça qu'un spoil, c'est si catastrophique. Pourquoi est-ce qu'un spoil, c'est catastrophique? C'est parce que ça te nique la surprise. Et la surprise, c'est voilà, l'une des choses qui te permet de parler d'un bouquin comme Paul Graham décrit. Donc c'est le senti. Alors, je pense qu'il y a plein de sentiments, mais j'en ai pris trois là qui me sont venus en tête. Donc le premier, c'est la surprise. Le second, c'est le rire. Donc un truc qui m'est venu en tête, ce sont les specials sur Netflix là, de Dave Chappelle. Je les ai tous matés, je les ai tous trouvés incroyables. Et à chaque fois que je termine, je me dis, mais putain, ok, maintenant je connais les blagues, je vais quand même le remater, ce sera plus jamais la première fois. Donc, le rire. Et la troisième chose, c'est les choses qui te procurent des émotions fortes. Donc là, je vais revenir sur Matthew Modder, qui est mon exemple là-dessus. Ne me jugez pas, hein, j'avais 16 ans quand j'ai regardé. Et donc, en fait, finalement, c'est une façon très spécifique, c'est provoquer des émotions chez quelqu'un. Et donc, c'est un très bon conseil, en fait, pour le branding ou la production de contenu. C'est de produire quelque chose, dont on va parler comme ça. Et vous voyez, avec la vidéo sur le marathon, c'est la première fois où j'ai essayé de faire quelque chose comme ça. J'ai essayé de faire quelque chose, je me suis dit, je veux que les gens ils ressentent quelque chose en matant ça. Et donc, c'était facile parce que moi, j'avais ressenti quelque chose en vivant le truc. Donc, j'ai pas eu besoin de faire vivre, enfin, de créer de l'émotion autour d'une histoire, soit qui était une fiction, soit l'histoire de quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, c'est un peu la ligne éditoriale de ma chaîne YouTube que j'ai découverte, c'est que je veux pas raconter des histoires, je veux raconter des histoires que j'ai vécues uniquement. Et c'est ça c'est l'intersection des deux qui produit, selon moi, un format qui a de l'impact. Et donc, je pense que je pourrais pas, en fait, refaire de sitôt un format comme celui-là, ni même réussir peut-être. Alors, je dis pas que la vidéo marathon, justement, correspond à ce que dit Paul Graham. Je dis que c'est la meilleure, en tout cas, moi, c'est le meilleur truc que j'ai produit de toute ma vie. Je pense que de toutes les vidéos que j'ai faites, c'est celle dont je suis le plus fier. Mais je pense que du coup, voilà, je pourrais pas la refaire de sitôt parce que, en fait, c'est un des grands éléments qui fait que j'ai pu faire passer le truc que je voulais. Alors qu'il ait été apprécié ou pas, derrière, hein, il y a des gens qui sont pas rentrés dedans. Peu importe, en tout cas, je suis content de ce que j'ai produit. C'est qu'il va me manquer la matière brute, en fait. Il va me manquer un truc à raconter. Et c'est ça qui rend si beau le truc, c'est qu'en fait, bah voilà. Ça s'est passé une fois. Je sais pas quand est-ce que ça va se reproduire. Je sais pas quand est-ce qu'en fait, va y avoir une émotion qui va me dépasser comme ça. Parce que c'était pas prévu, en fait. J'avais prévu de raconter la vidéo marathon comme j'avais fait la première vidéo, là, sur le 10K. Donc, de donner mes conseils, pourquoi faire des trucs durs, c'est important. Enfin, une vidéo qui aurait été cool, hein, mais qui aurait pas été une vidéo avec de l'émotion. Et c'est en fait le jour J où j'ai été surpris par ça. Ça m'a dépassé le truc. Et c'est pour ça que ça fait pleurer. C'est parce que tu comprends pas ce qui t'arrive, en fait. T'es dépassé par le truc. Même, je me souviens que j'étais en train de pleurer. Je savais pas pourquoi je pleurais. Je savais pas. J'ai cherché. Non, c'est pas parce que je suis triste. C'est pas non plus juste parce que je suis content. Et putain, je sais pas. Et en fait, c'est parce que c'est l'histoire, je pense, de ce marathon-là qui était belle. L'histoire de la préparation et l'histoire de la course. Que j'aurais pas pu anticiper dès le début. Voilà. Donc, point numéro 6, faites des trucs que les gens aimeraient relire pour la première fois. Numéro 7, bah alors c'est aussi sur la lecture, c'est se relire. Elle s'appelle comme ça, mais vous allez comprendre. Donc, je vais revenir sur cette vidéo marathon. C'est la première que j'ai écrite sur plus qu'un jour. Ou deux jours, peut-être. Parce que vous savez, moi j'écris le matin, je tourne l'après-midi souvent. Et parfois, j'écris la veille quand je fais que j'aurai pas le temps le lendemain matin. Et donc, je me relis le lendemain, mais c'est jamais vraiment. C'est comme si c'était un créneau d'écriture. Là, c'est la première que j'ai écrite sur une semaine. Et il en est sorti un résultat qui était très différent. En fait, moi, là-bas, j'avais cette croyance-là que je voulais être un peu un mec bon en impro, donc un genre de naturel. Quelqu'un qui réussit du premier coup. Mais en fait, quand tu réfléchis bien, quand quelque chose est vraiment important pour toi, tu peux pas vraiment le... En fait, c'est très rare de le freestyle. C'est un peu une excuse. C'est deux choses différentes que d'être bon en improvisation et de produire un contenu où tu dis, je vais mettre toutes les chances de mon côté pour que le truc soit bien. Et si tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour que le truc soit bien, eh bien, il faut passer du temps sur les choses. Tu peux pas faire les trucs en one shot. Il faut que tu mettes de l'intensité, donc de la relecture. Parce que sinon, ça revient à publier son brouillon. Donc d'ailleurs, tout ce podcast, Road to Scale, c'est pour ça que j'adore, c'est parce que ça me permet d'avoir un brouillon. Et un brouillon sur lequel je peux avoir des retours. Donc n'oubliez pas d'aller voter dans le sondage sur Spotify, s'il vous plaît. C'est très important pour moi. Ça me permet de faire de l'itération sur mes brouillons. Et donc, j'ai trouvé deux citations, enfin deux qui sont un peu longues, hein, mais qui sont des extraits de newsletters que je trouvais très à propos là-dessus, sur l'impact d'écrire et de... Et comment produire un contenu qui est bien. Voilà. Et donc la première, elle est de Anu, A-N-U, pardon, dans Working Theories, qui écrit « L'écriture augmente le taux de révélation. Cela est vrai que quel que soit le sujet. Cela est vrai, pardon, quel que soit le sujet, excusez-moi. Car l'écriture est un processus de réflexion, d'affirmation et d'itération. L'écriture clarifie vos propres idées. L'écriture engendre également de nouvelles idées. L'écriture permet de vous explorer. Putain, j'arrive pas à lire aujourd'hui. L'écriture vous permet d'explorer des idées en profondeur, même si vous n'aurez pas le temps de toutes les mettre en œuvre. L'écriture montre aux gens comment vous pensez et leur permet de décider s'ils sont d'accord, s'ils vous respectent, et si vous êtes peut-être le genre de personne qu'ils voudraient inviter à prendre un café, ou avec qui ils voudraient passer des années à travailler. On n'écrit pas quelque chose en une seule fois et on ne clique pas sur publier. De même, on ne construit pas en une seule version. Putain, on ne construit pas une seule version de quelque chose et on considère que c'est fait. Pour bien faire l'un ou l'autre, il faut aussi beaucoup de réflexion et de révision. Donc, révision, c'est relire, réviser quelque chose. Si tout le monde n'a pas l'intérêt ou aptitude nécessaire pour incarner l'archétype de l'écrivain bâtisseur, ceux qui le font ont un avantage indéniable. Ils peuvent enclencher un cycle vertueux de révélation qui les fait progresser tous les deux. Donc, le fait d'écrire et le fait de bâtir. Et donc, je me souviens où est-ce que j'ai trouvé ça, c'est dans une newsletter qui parle justement des écrivains bâtisseurs, une catégorie à laquelle je m'identifie beaucoup. Donc, c'est à la fois avec une partie créative, des gens qui écrivent, qui partagent, et parce qu'en fait, la vidéo, avant d'être une vidéo, c'est une écriture de vidéo. Donc, je mets ça dans le même panier. Et les bâtisseurs, c'est ceux qui construisent. Et donc, le truc que je construis est très simple, c'est ma boîte. Et donc, on peut penser au début que c'est un peu un défocus d'être comme ça, parce qu'en fait, on devrait soit passer plus de temps à bâtir, soit plus de temps à écrire, et que ce sont deux métiers qui ont deux noms différents pour une raison. Je trouve que justement, je vous l'avais déjà dit, c'est l'intersection des choses qui crée en fait l'unicité. Et je trouve que là-dessus, le fait d'être un écrivain bâtisseur, ça donne un peu des profils que j'aime beaucoup, moi, chez les entrepreneurs que je rencontre, ceux qui construisent et qui à la fois partagent du contenu. Et c'est pour ça que c'est ce que j'essaie beaucoup de recevoir dans Lève tes chaussures. On s'entend bien, souvent. Voilà. Et donc, vous avez compris, quelque chose d'important, on ne l'écrit pas une fois. On l'écrit, on le relit, on le fait mieux. Et donc, j'ai trouvé un autre extrait d'ailleurs qui parle justement de pourquoi est-ce que certaines personnes arrivent à produire quelque chose de qualité. Enfin, qu'est-ce qui détermine ceux qui arrivent à le faire et ceux qui n'arrivent pas à le faire. Donc, en fait, parce que se relire, c'est chiant. Quand tu dois relire une copie de philo ou relire un DS de maths, c'est chiant. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, dans ses essais on authorship and on reading, tout ça c'est traduit avec DeepL, hein, donc c'est normal s'il y a des phrases qui sont un peu cheloues. C'est pas la raison pour laquelle je bute sur les mots, mais parfois il y a des mots qui peuvent un peu sauter. Donc dans ses essais, il identifie deux types d'acteurs, je sais plus de qui il parle. Hein. Ceux qui écrivent pour le bien du sujet et ceux qui écrivent pour le bien de l'écriture. Et en fait pour le bien de l'argent. Donc c'est-à-dire ceux qui écrivent parce qu'ils doivent écrire et ceux qui écrivent parce que le sujet les intéresse foncièrement. Leur motivation ne pourrait être plus différente. Les premiers écrivent parce qu'ils sont curieux, donc ceux qui écrivent pour le bien du sujet, et qu'ils veulent comprendre quelque chose. Ils sont comme des détectives, explorant un sujet sous toutes ses coutures, essayant de le comprendre en profondeur. Pour eux, le processus d'écriture est le moyen de découvrir ce qu'ils ne savent pas et de trouver des nouvelles idées. Ces dernières, parce qu'ils sont payés aux mots et non à l'intuition. On reconnaît ces derniers à la façon dont ils développent les idées à moitié fictives, des idées à moitié fictives, le plus longuement possible. Leurs écrits sont évasifs, manque de précision et de clarté. Donc ça, ce sont les gens qui écrivent pour écrire. Et c'est un peu un fléau, alors elle n'est pas terminée la citation, mais je vous fais une petite remarque là-dessus. Donc, des personnes qui écrivent pour écrire, c'est les gens qui se disent « je vais faire un post LinkedIn par jour » et qui ne comprennent pas qu'au début, c'est utile pour apprendre à faire apprendre la régularité, mais qu'à bout d'un moment, il faut la arrêter. Il faut parler quand tu as vraiment des trucs à dire et qui t'intéressent. Et je vous donne un exemple d'une personne qui écrit parce que les sujets l'intéressent. Je vais reprendre un exemple de Paul qui a écrit une très bonne newsletter récemment sur le concept de... je vais pas vous dire le titre. Je vais vous le mettre plutôt en lien dans le... Alors, pas dans la description, mais dans la newsletter qui partira ce soir. Et donc, c'est la newsletter Solve. Dans lequel il parle, je vous le raconte sinon vous n'aurez pas envie d'aller le lire, de pourquoi est-ce qu'être riche, ça ne construit pas un background socio-culturel. En fait, il fait un graphique qui est très stylé, où il classe les activités selon leur connotation socio-culturelle. Et donc il dit que par exemple, acheter un t-shirt Balenciaga avec des gros logos, c'est un capital financier qui est haut, donc il faudra de l'argent pour le faire, mais c'est un capital socio-culturel qui est bas. Et il y a un truc très intéressant, c'est qu'en fait les jets privés, c'est à la fois un capital financier haut évidemment, mais c'est un capital socio-culturel bas et haut, qui est à la fois des nouveaux riches qui vont dans des jets privés, mais les très très riches vont aussi dans des jets privés. Voilà, je sais plus pourquoi je vous parlais de ça. Bon bref, rien que le fait de faire un schéma pour expliquer cette idée-là, ça ne peut être fait que par une personne que le sujet intéresse foncièrement. Donc voilà, Solve est une newsletter écrite par quelqu'un qui est passionné par ce qu'il écrit, et donc je continue la citation. Si cela vous semble familier, c'est normal. C'est l'équivalent littéraire du clickbait. Voilà, ça c'est pour parler des gens qui écrivent pour écrire. Un contenu créé non pas pour informer, mais simplement pour attirer les regards et vendre des publicités. Notre monde est inondé de ce type de contenu qui nous fait perdre notre âme. Comme l'a dit Schopenhauer, écrire pour l'argent est, au fond, la ruine de la littérature. Seul l'homme qui écrit absolument pour l'amour du sujet écrit quelque chose qui vaille la peine d'être écrit. Vous voyez que c'est ça qui est si dur, en fait. Quand t'es... Bah, d'ailleurs, c'est un truc compliqué pour revenir sur l'autre extrait d'avant. Quand tu es un écrivain bâtisseur, c'est que bâtir, du moins bâtir une entreprise, c'est gagner de l'argent. Donc, quand tu comprends que ton contenu commence à permettre à des gens de gagner de l'argent, soit moi ou des marques que je peux mettre en avant, eh bien, ça le dénature un petit peu. Donc, il faut toujours faire des... Enfin, c'est très compliqué, j'ai pas de solution à ce dilemme, pour être honnête. Je pourrais peut-être y réfléchir et faire une vidéo sur le sujet. Mais c'est très dur. Comment être un artiste et un businessman à la fois? C'est pour ça que souvent, c'est pas fait par les mêmes personnes. Donc, je termine la citation. Plus nous tolérons de mauvais textes, plus nous en obtenons. Alors que les gens passent du temps sur des déchets sans valeur, ils laissent les œuvres de grands penseurs intactes. Tous les écrits ne valent pas la peine d'être lus. Ce n'est pas parce que quelqu'un peut mettre des mots sur une page qu'ils valent la peine d'être lus ou qu'ils apportent une valeur ajoutée. Et donc, voilà. Donc, d'où l'importance d'écrire sur des choses qui nous passionnent et de se relire. Et c'est très compliqué de relire quelque chose si ça ne te passionne pas. Pendule numéro 8. Donc là, pour le coup, je vais vraiment prendre un extrait d'une newsletter de Gurvinder Bogal, dont je vous ai déjà pas mal parlé, qui s'appelle Overchoice and How to Avoid It. Donc, ça s'appelle comment ? Overchoice. Choice Overload. Comment est-ce que je vous traduis ça ? On va dire ça simplement, comment prendre de bonnes décisions, comment ne pas faire d'erreur de choix, et voilà, comment éviter ça. Donc, il donne 5 conseils que je voulais vous partager, qui sont en fait 5 donc des decision heuristics, qui sont des petites façons de penser, qui te permettent, dans des situations où tu es un peu du père dans une décision, d'y voir un peu plus clair. Donc, première chose, les uphill decisions. So, je commence à faire l'anglais. Donc, if you can't decide between two equally difficult choices, take the path that's more difficult, painful in the short term. Donc, s'il ne peut pas choisir entre deux choix d'une égale difficulté, prends le chemin qui va être le plus difficile ou douloureux sur le court terme. Et donc, ça, c'est pour éviter le biais qui fait qu'on va éviter la douleur, même si parfois c'est la bonne décision. Seconde chose, the two-minute rule. If a task takes less than 2 minutes, it should be done at the moment it's defined. Donc, si une tâche prend moins de 2 minutes, elle doit être faite au moment où elle est définie. Donc là, je suis pas trop d'accord par contre avec l'argumentation qu'il donne. Il dit que sinon, ça te prend de la bande passante mentale. Mais bon, il suffit d'écrire sur un papier. Mais bon, l'idée est intéressante. Il faut pas que ça. Voilà, il faut pas la garder dans sa tête. Numéro 3, c'est mon préféré, c'est le paradoxe de Salomon. If you can't decide, pretend you're deciding for a friend. Si tu ne peux pas décider, imagine que tu décides pour un ami. Et bon, je vous avais déjà parlé de cette idée-là. Je crois que c'était même une pendule sur le fait de se voir à la troisième personne. Et bien ça, bon, ça a été prouvé que ça t'aide à avoir un peu plus de clarté. Numéro 4, the hesitation heuristic. If you can't decide, the answer is no. Bon, ça, très simple, ça passe d'explication. Si tu ne peux pas décider, la réponse est non. Parce qu'en fait, en disant oui à un truc où tu n'es pas trop sûr, tu dis non à un truc dans le futur que tu ne pourras pas accepter parce que tu auras dit oui à ce truc-là. Donc dis non. Il y aura plein d'autres choses où il y aurait un oui plus évident. Et dernière chose, la minimisation du regret. The opinion you should care about most is your future self. Et donc ça reboucle sur la dernière chose. Enfin, sur un des trucs, dont on a parlé dans ce podcast. Donc la seule opinion dont tu dois avoir quelque chose à foutre, c'est le toi de demain, enfin le toi du futur. Ça c'est facile à dire, très difficile à écrire. Mais c'est voilà, bon, c'est une très bonne façon de, quand vous êtes un peu du père dans une décision, vous posez ces 5 questions et ça donne un petit peu de clarté. J'aime beaucoup de toute façon tous les trucs comme ça, les petits modèles mentaux et tout, qui permettent de mieux réfléchir. C'est la fin des pendules. Donc les 8 pendules, je vous les récapitule. Épouser la saisonnalité. Ensuite, il y avait une qui s'appelait un capitaine fait en sorte qu'on fasse les bonnes choses, un lieutenant fait en sorte qu'on fasse les choses bien. Putain, voilà, c'est comme ça qu'il faut la dire en fait en français. Ça claque beaucoup mieux comme ça. Numéro 3, les métaphores. Numéro 4, apprendre à jongler. Numéro 6, la discipline, c'est de l'amour personnel. Numéro 6, j'aimerais tellement te lire pour la première fois. Numéro 7, l'importance de se relire. Numéro 8, les decision heuristics. Voilà, donc maintenant on passe aux deux dernières sections et je vous explique pourquoi il n'y a pas la toute dernière, qui sont j'ai changé d'avis sûr et mon sujet du moment. Donc, j'ai changé d'avis sûr, c'est quoi ? C'est une section qui revient sur un truc que j'ai partagé dans un contenu, souvent dans ce podcast, et sur lequel j'ai un peu évolué. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai une pensée qui va un petit peu plus loin sur un sujet en particulier, qui est celui que je vous ai teasé en introduction, c'est rendre un client content, c'est promettre un 8 et délivrer un 9. Tandis que promettre un 10 et délivrer un 9, ça rend quelqu'un de mécontent. Cette phrase est vraie. Mais il y a une limite. Parce que l'idée derrière ça, c'est quoi ? C'est qu'en fait, le delta positif entre ce que tu as promis, entre les attentes et le délivré, crée la satisfaction d'un client. Tout cela a des limites. C'est pas juste une affaire de différences positives, parce qu'il peut y avoir des différences qui sont trop positives. Si c'est trop grand, ça nique le bail. Donc en gros, imagine que t'as promis un 2 sur 10 à quelqu'un et que tu lui livres un 9 sur 10. Donc ça, la métaphore qui parle le plus, c'est le mec en soirée qui fait genre qu'il sait pas jouer de la guitare. Il fait « Oh non, non, mais vas-y, je sais pas trop, tu sais, j'ai appris la semaine dernière, etc. » Tu lui passes une guitare et là, il t'envoie un solo de fils de pute. Là, vous avez compris, les attentes étaient basses ou il a essayé de les mettre basses. En fait, il t'a délivré un truc de ouf. Ça, ça marche pas en fait. Le public qui regarde ça, en fait, ça le saoule. Pourquoi ça le saoule ? C'est parce qu'on passe de la bonne surprise à la tromperie. Quand la différence, elle est trop grande, donc 9-2, ça fait 7 de différence, donc il t'a vendu un 2, ça va être de la merde, c'est un 9, c'est incroyable. Et ben, ça a beau être incroyable, c'est agréable à écouter, ton jugement sur le mec va être négatif. Tu te dis, ah d'accord, c'est, en fait, c'est un faux modeste, ce mec. Il faisait semblant. Il m'a dupé, quoi. Il m'a trompé, simplement. Donc je pense qu'il y a une limite là-dessus. Je pense que ça marche, bon, évidemment, dans le sens inverse, mais après, c'est plus facile de démontrer que quand t'as promis un 9 sur 10 et tu délivres un 2 sur 10, bon, bah là, t'as envie de, d'envoyer l'autre mec en prison, quoi. Genre, ah non, mais pas forcément. Bah, on peut reprendre cet exemple-là là, de la guitare. Le mec, il t'a dit, je suis un joueur incroyable, et en fait, il joue de la grosse merde. Je sais même pas si c'est pire. Non, c'est quand même un peu pire, parce que t'as même pas la bonne musique pour te laver les oreilles. Donc voilà, j'ai changé d'avis sur ce truc-là. J'ai plutôt fait progresser ma réflexion. On boucle avec mon sujet du moment. Donc mon sujet du moment, c'est quoi ? Mon sujet de la semaine, c'est comment... En fait, j'ai vraiment une impasse intellectuelle sur pourquoi est-ce qu'il y a des semaines entières où je suis que dans des impasses intellectuelles. Voilà, pour réemployer deux fois la même formule. Il y a des semaines où je n'arrive pas à accéder au cerveau, aux idées. Les idées ne marchent pas, c'est terrible. J'ai du mal à savoir ce qui les déclenche. J'aperçois des corrélations. J'aperçois que souvent, c'est les moments où je n'ai pas bien dormi, c'est les moments où il y a eu des mauvaises nouvelles, des trucs comme ça, etc. Et je ne sais pas comment les combattre. J'ai un petit peu de mal. Je pense que j'ai une compréhension qui est un peu plus fine qu'avant, là-dessus. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne comparaison, parce que je ne suis pas trop un informaticien. J'ai très, très peu de connaissances en informatique, mais je sais qu'il y a deux choses différentes. Il y a la capacité de stockage, donc sur le disque dur, et il y a la RAM. C'est le truc qui permet d'accéder au stockage. Et donc, si on caricature, il y a voilà, le nombre d'infos que tu peux stocker. Et si t'as une RAM qui est puissante, bon, bah, ton ordi va vite. Les informaticiens, vous pouvez me défoncer, si vous voulez. Je pense que dans une période comme ça où tu deviens con, en fait, ce qui va mal, c'est pas le disque dur, c'est pas tes connaissances qui disparaissent, c'est la RAM. C'est-à-dire que tu n'arrives plus à y accéder. Tu te dis, ah, je vois cette idée-là, oh non, c'est con, de toute façon, c'est de la merde. Non, en fait, c'était con. Ça, déjà, c'est une finesse que j'avais pas comprise. Et donc, ce qui te nique dans ces périodes-là, souvent quand t'as genre un manque de sommeil ou un peu une perte de confiance en toi, c'est que t'as plus confiance dans le fait que les données qui sont sur le disque dur soient les bonnes. Et donc, un raisonnement qui te paraissait stylé il y a deux semaines, tu te redis la même chose et tu te dis, mais en fait, c'est de la merde, je suis complètement con. Et donc, tu te dis, ah putain, mais je me souviens qu'il y a deux semaines, je trouvais ça trop stylé, je trouve ça trop nul, je suis persuadé que j'ai raison, vas-y, je suis une grosse merde. Et là, boum, ça fait cercle vicieux. Au lieu de durer un jour, ça dure une semaine, puis ça dure un mois, etc. Et t'as des gens qui passent leur vie comme ça à croire qu'ils sont des merdes. Donc, bon, bref, j'ai fait des milliards de contenus sur comment est-ce que tu reprends un petit peu confiance en toi en construisant la discipline, tout le bordel dont je vous parle dans ce podcast depuis l'épisode 1, depuis le prologue. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi de se mettre à la place. Alors, j'ai pas de solution, hein, c'est pour ça que c'est mon sujet du moment. c'est juste que je suis en train de creuser dessus. Je trouve ça intéressant et je sais que ça arrive à plein de gens. Mais j'ai aussi appris à le voir dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'au même titre que toi, tu peux être cul parfois intellectuellement, c'est important de savoir. D'apprendre à savoir à quelle version de ton interlocuteur tu parles. Donc parfois, donc moi en fait, si on me juge à deux semaines d'intervalles différentes, une semaine de clarté mentale et une semaine de brouillard, il y en a un qui va trouver, bon alors, je caricature, peut-être que je grossis, il y en a un qui va me trouver intelligent et l'autre qui va trouver que je suis le dernier des cons. Les deux auront raison. Vous voyez ? Eh bien c'est la même chose quand tu rencontres des gens. Parfois, tu vas les attraper dans une mauvaise période. Tu vas les attraper à un moment où ils sont teubés. Et ça se trouve, tu les as eus sur la semaine de l'année. Alors, c'est pas probable, hein. Souvent, quand tu rencontres quelqu'un qui dit n'importe quoi, il y a plus de chances d'être un con qu'un génie dans une mauvaise passe. Mais je m'en rends compte dans le coaching que je fais avec les fondateurs d'agences. Mon travail, c'est d'en rencontrer beaucoup et de les accompagner sur une période d'essai, donc c'est entre 4 et 8 semaines. Et j'évite à tout prix de me faire un jugement en one shot sur les gens. J'essaie de le faire sur plusieurs semaines. Alors, ça me permet de faire deux choses. Ça me permet déjà de réévaluer mon sentiment, un sentiment positif sur quelqu'un à plusieurs intervalles réguliers, des moments où je suis de bonne humeur, de moins bonne humeur, où il y a des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, etc. Et à la fin, je décide, bon, est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne-là, dans les bonnes et les mauvaises nouvelles. Et souvent, sur 4 et 8 semaines, ça suffit pour s'assurer d'un truc comme ça. Et ensuite, seconde chose, ça me permet aussi de laisser l'opportunité à la personne en face de moi, de me donner une moyenne de qui elle est. Donc sur 8 semaines, tu la vois 8 fois. Bon, bah, t'as la chance de ça, tu peux voir en fait. Et finalement, ça lisse la variance. Tu répètes plusieurs fois l'opération. Si tous les calls sont de la merde, bon, bah, c'est de la merde. S'il y en avait juste 2 et 6 sont bien, bon, bah, super. Et voilà. Et donc en gros, je trouve que ce sujet est fascinant. Je me demande, en fait, j'ai deux interrogations là-dessus. La première, c'est est-ce que c'est possible d'éviter d'avoir des périodes comme ça? Ensuite, comment est-ce qu'on les gère au mieux? Comment est-ce qu'on en sort au plus vite? Parce que j'ai vraiment découvert que toutes ces périodes-là de merde, il ne faut pas attendre d'en sortir, il faut faire quelque chose qui te permet d'en sortir. Et donc, je me pose la question et je vous tiendrai au courant si jamais je trouve des réponses. Et donc, on va terminer ce podcast en vous expliquant pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la question case cracking. Enfin, il n'y a pas la section case cracking qui devait pourtant être présente. Comme je vous l'ai annoncé au sommaire, enfin, au programme de la saison 2. Parce que j'essaie de le faire. J'ai demandé aux gens du Discord. D'abord, de me poser des questions, j'ai reçu des messages, et j'ai pris une personne dans le Discord, et je lui ai dit, bon, je vais essayer de répondre à ces questions. En fait, je lisais son message, et je n'avais pas assez d'informations telles quelles pour pouvoir répondre à la question. Je lui ai posé des questions, il m'a renvoyé des informations, c'était pas très clair, j'ai reposé des questions, il m'a renvoyé des informations. Et en fait, j'ai réalisé que la démarche d'apporter une réponse de qualité à une question, alors malheureusement, ça se fait pas en distanciel. Enfin, c'est pas en distanciel, mais ça se fait pas à l'écrit. Ça se fait pas. C'est très très dur en fait de donner parfaitement les informations dont ton interlocuteur a besoin pour qu'il puisse te donner une réponse de qualité. Et donc en fait, qu'est-ce qui m'embêtait avec la question qui est de cette personne-là, c'est que j'arrivais pas à trouver de réponse. J'arrivais pas à trouver. J'avais plein de questions et je sais que tu me donnes 10 minutes, je le tue son sujet. Mais juste, j'avais envie de l'appeler, j'ai envie de le prendre dans un call. Et ça, c'est des choses qui sont pas scalables pour moi. En fait, ça rajoute beaucoup de temps de préparation et je pourrais pas le faire toutes les semaines. Du coup. Ça ne scale pas du tout. Et ça recoupe avec la toute dernière citation de sortie de ce podcast. Don't talk unless you can improve upon silence. J'espère deux choses. Enfin, deux choses déjà. Je ne pense pas être meilleur que le silence sur le case cracking. Je ne veux pas dire des conneries. Et ensuite, j'espère que cet épisode, pour vous, était mieux que du silence. C'était Théo. Je vous embrasse. À la semaine prochaine.